Et si les gens votent non à la Constitution ?
Oh ben, c'est extrêmement simple, hein. Si les gens votent non, tout ce que je t'ai dit qu'il y a de nouveau, et plein d'autres choses encore, on les aura pas.
On a des enfants les uns et les autres, il faut penser à eux. Le problème n'est pas de savoir qui gouvernera la France demain. Le problème n'est pas de savoir quel est l'objet de notre débat de politique intérieure. C'est que la petite fille aujourd'hui qui a 10 ans, le petit garçon qui a 10 ans, il aura 18 ans, il aura sa majorité, quand ce traité viendra à maturité. C'est pour eux, pour la France.
Bah écoutez, il faut voter oui, hein.
Génial idée.
Moi je suis pour l'Europe, alors pourquoi il faudrait voter non? On ne peut pas, nous Français, rester en dehors de l'Europe.
L'Europe unie va fabriquer le plus gros avion du monde.
Effectivement, Airbus, c'est d'une certaine façon l'Europe.
Je crois que si le non gagnait, je crois qu'il y aurait pas mal de gens qui quitteront la France. Mais moi, je parle pas pour moi, hein. Moi, je dis simplement, c'est ce que j'entends plein de gens qui disent si le nom passe, il ne reste plus qu'à partir de France.
Eh bien, François Pinault a décidé donc de se déplacer à Venise.
Alexandre Adler sur France Culture.
Son choix signifie simplement qu'il y a une France qui aujourd'hui est arrivée au bord de l'explosion. Une France sclérotique, une France prétentieuse, une France tournée vers elle-même, une France qui se croit irremplaçable et qui se trompe. Cette France, excusez-moi de cette petit élément de propagande, c'est bien sûr la France du non.
Pierre Imbert, Serge Halimi, le pouvoir des chroniqueurs, c'est le pouvoir de dire nous quand ils pensent je.
Alors voilà, et oui, c'est consternant, le camp du non se tire dans le pied, tire dans son propre camp, c'est tout à fait pathétique. D'une part et d'autre part, sur l'europondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, il n'y a que des messages non. Mais je vous promets, c'est vrai, depuis hier, on avait quelques oui auparavant, là, il n'y a plus que des non. Alors, on est très embêtés, vous connaissez notre déontologie et notre sens de l'objectivité ici à France Inter. Donc, aujourd'hui, pas de répondeur. On fera un spécial répondeur, peut-être demain, si les oui s'expriment et laissent des messages convaincants, pas des messages comme ça, pas des chantages, mais des vrais messages pour défendre le oui à la Constitution sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dont je rappelle le numéro 01 56 40 37 37. Oui, oui, c'est encore un effort. Aujourd'hui, on continue avec Serge Halimi et Pierre Imbert. Ces commentaires et ces analyses et ces leçons de dissection et de démontage des commentaires du débat, c'est-à-dire des médias engagés en tenue de combat dans le débat sur le référendum. Alors hier, Halimi et Imbert ont commencé à démonter tout ça et à mettre tout cela à plat. Ils vont continuer aujourd'hui, je le rappelle, Serge Halimi est journaliste au mensuel Le Monde Diplomatique. Il est l'auteur d'un ouvrage chez Fayard intitulé Le Grand Bond en Arrière. Et Pierre Imbert est chercheur, sociologue et l'un des collaborateurs du journal PLPL pour lire Palu, qui est un journal satirique spécialisé dans la critique des médias. Voilà, on va donc les retrouver dans un instant avec Guy Vanctil. Et j'ai une bonne nouvelle. Le mardi 24 mai, c'est-à-dire quelques jours avant la fin du monde. La fin du monde, c'est pour le 29 au soir, lorsque le non aura gagné au référendum. D'ici là, que faire en attendant cette terrible fin? Eh bien, vous pouvez, le mardi 24 mai, aller au théâtre de Jazet, au 41 boulevard du Temple, au métro de la République, dès 20h, où aura lieu le procès de NS. Le procès de NS, avec une pléiade de vedettes, dont le dessinateur Cabu, l'écrivain Gérard Mordilla, des dessinateurs comme Luz, de Charlie, Jules, le dessinateur, l'auteur de Il faut tuer José Bové. Il y aura enfin beaucoup de monde, dont votre propre serviteur, dans ce procès de NS. Vous vous souvenez peut-être du procès de JC. Auparavant, on avait diffusé un certain procès d'un certain JC, le PDJC, ça vous avait pas mal intéressé, pas mal amusé. JC, évidemment, c'est Jacques Chirac. Et on s'est dit que c'était un peu trop tard, que ce procès venait un peu trop tard et que ça servait pas à grand-chose, même si la condamnation était absolument évidente et juste, puisque c'est nous qui l'avions rendue. Cette fois-ci, on va faire de la justice préventive avec celui qui sera notre président en 2007 et qui actuellement est un petit peu silencieux. On s'étonne de sa discrétion dans les médias. Eh bien, il sera à l'honneur donc mardi prochain. Il s'agit évidemment de Nicolas Sarkozy, vous l'avez compris, le mardi 24 au Théâtre de Jazet, le procès de NS. On rejoint tout de suite nos deux experts. Alors on a un spécialiste en expertise et un expert en spécialiste qui sont donc Serge Halimi et Pierre Rimbert. C'est là-bas si j'y suis.
La France doit dire oui à l'Europe parce que l'Europe et la France le méritent.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, Guy Vanctil, Serge Halimi, Pierre Rimbert.
Flight number 2, arriving from New York.
France Inter, revue de presse, 28 avril 2005.
Qui sait si les principales victimes du non ne seraient pas justement les médias, tous les médias. Et là, attention Stéphane, hein, c'est un scud de Serge Halimi dans le monde diplomatique. Alors, aux abris. Tous ces médias se sont mis, dit-il, en tenue de campagne, et c'est pour eux qu'un non serait une catastrophe. Pas tant pour les raisons qu'ils nous serinent avec insistance, l'isolement de la France, l'impuissance de l'Europe et tout le Saint-Frusquin, mais parce qu'ils confirmeraient ce non, l'impact amoindri des ratiocinations éditoriales d'une confrérie ruisselante de fatuité. Passe encore, ajoute Halimi, que les journalistes ne soient plus admirés, mais un revers sur le front européen entamerait la confiance qu'ils ont de leur propre pouvoir et leur démontrerait qu'après leur avoir tout concédé, eh bien on peut aussi les vaincre. Alors malgré les Paoli, les Guetta, les El Kabash, les Duhamel et les Okrent, c'est toujours Halimi qui parle, l'électeur qui devait répondre oui s'apprête à faire le contraire. Comment, demande encore le chroniqueur du Monde de Diplomatique, comment concevoir une telle incapacité de sa part à réciter la leçon qu'on lui a 100 fois dispensée? Eh bien, simplement parce que les médias qui se sont soi-disant voulus pédagogiques, entre guillemets, ils l'ont été, certes, mais pas comme ils l'imaginaient, et toc. Vous pouvez sortir, Stéphane, c'est fini.
Je vais peut-être préciser que demain, tenez, on va recevoir Bernard Cassen, qui est aujourd'hui le président d'honneur d'Attaque. Peut-être qu'Halimi écoutera.
Voilà, en tout cas, la critique étant salutaire, hein. On est sauvés.
Bien sûr.
Cela étant, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Il y a sûrement aussi un peu de vrai dans la charge.
Serge Halimi, voilà, je suis obligé de prendre quand même la défense de mon employeur, de ma radio de service public, qui fait preuve, vous venez de l'entendre, de son ouverture d'esprit, puisqu'il est réceptif aux critiques, d'autant que notre président directeur général, Jean-Paul Cluzel, a fait une déclaration récemment dans les Échos, disant que lire les articles de la Constitution et les expliquer, ça n'est pas faire de la propagande, et qu'il faut un travail d'explication et d'exposition, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Oui, moi je souhaite pas exactement m'étendre sur les arguments des partisans du oui et les arguments des partisans du non, parce que il me semble que l'objet de cette émission c'est de voir à quel point les uns sont systématiquement servis et les autres sont systématiquement desservis sans se prononcer sur le fond de la querelle. La seule chose qu'on peut remarquer c'est de voir à quel point l'ensemble des chroniqueurs sont partisans de la même cause. Non seulement ils sont partisans de la même cause, mais en général, ils officient dans un nombre assez considérable d'antennes différentes, ce qui leur permet en quelque sorte de démultiplier leurs messages. Alain Duhamel, partisan du oui, est sur RTL, dans Libération, dans Le Point, dans 3 quotidiens régionaux. Jean-Marc Sylvestre est sur France Inter et je crois à TF1. Bernard Guetta est sur France Inter et à L'Express et il fait aussi des chroniques pour Le Temps de Genève. Alain Gérard Slama et Alexandre Adler, eux aussi partisans du oui, sont à la fois sur France Culture et au Figaro. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sont à la fois au Monde et à France Culture, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et Louis Plenel est à la fois au Monde 2 et à LCI. Laurent Geoffrin et Jacques Julliard sont à vrai dire partout, à commencer par Le Nouvel Observateur et LCI. Yves Calvi est sur Europe 1 et à France 5, et je ne dis rien de la liste éternelle des Attali, Glucksmann, Solers, BHL, Semprun, Bruckner, qui ressurgissent toujours lorsqu'il y a un débat pour se ranger presque miraculeusement du côté des puissants. Et je pense que ça, c'est vraiment le problème qui nous est posé, et que si la moitié des chroniqueurs, le temps d'antenne, le ton des questions, l'habillage de l'antenne, le choix des sujets étaient équitablement répartis, alors on pourrait dire que nous avons connu un débat vraiment démocratique.
Pierre Hébert.
J'ajoute que tous ces journalistes que Serge Halimi vient de citer ont un point commun, c'est qu'à leurs yeux, il est inconcevable qu'on s'oppose à un traité de référendum parce qu'on le refuse. La seule chose qui puisse être concevable à leurs yeux, c'est que on s'y oppose parce qu'on ne l'a pas compris. Il faudrait expliquer les choses, combler le déficit de pédagogie, selon l'expression consacrée, tout ça afin que nous rejoignions le camp déraisonnable. Déraisonnable en deux mots.
France Culture, 14 mai 2005.
Comment expliquez-vous, Alain Duhamel, cette unanimité des grands éditorialistes ?
Les éditorialistes, en général, ne sont pas d'accord entre eux. Sur la quasi-totalité des sujets, il y a effectivement un grand clivage et des antagonismes entre les éditorialistes. Sur le sujet européen, c'est une évidence que la quasi-totalité des éditorialistes sont du même avis. Alors, pourquoi est-ce que les éditorialistes de tous les pays européens, des 25 pays européens, pas simplement de la France, pourquoi est-ce que l'immense majorité des éditorialistes, pourquoi est-ce que l'immense majorité des responsables économiques ou politiques et syndicaux, pourquoi est-ce qu'ils sont du même avis? Alors là, il y a un certain nombre d'interprétations qui sont possibles. Il y a l'interprétation du complot, ils sont tous mis d'accord. Bon, c'est ridicule. Il y a l'interprétation du conformisme, c'est parce qu'ils sont conformistes, ils sont un peu étroits d'esprit, ils ont des préjugés, ils répètent chacun en boucle ce que dit le voisin. On l'entend souvent. Ou bien il y a une autre hypothèse qui est de dire que ce sont des gens qui...
Qui auraient raison.
Non. Qui depuis très très longtemps essayent de s'informer sur cette question et pensent non pas que la Constitution est la solution de tout ou qu'elle est parfaite. D'ailleurs moi j'ai très souvent et encore cette semaine dit le contraire. Mais que c'est la moins mauvaise des solutions aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle m'a déjà apporté l'Europe ?
L'Europe, elle t'a d'abord apporté, comme à nous tous, la paix. Mais vous les jeunes, ça c'est difficile pour vous de vous en rendre compte. C'est plus facile pour moi, tu vois. Moi je suis né 5 ans après la guerre. Alors mon père, quand il avait 18 ans, il était emprisonné à Fresnes, dans la prison que contrôlaient les Allemands, qui nous occupaient, parce qu'il était résistant. Et mon oncle, lui, à 19 ans, il a été mutilé, il a sauté sur une mine. Et mon grand-oncle, c'était la guerre d'avant, la guerre de 14-18. Il avait perdu les 3/4 de ses poumons. Alors quand on était ensemble en vacances dans le sud, dès qu'il y avait du mistral, oh, il pouvait plus respirer. On était obligé d'aller chercher des bouteilles d'oxygène. Donc moi, je sais ce que c'est la guerre. J'ai vu ça autour de moi. Je sais comme tout le monde a été brisé. Et vous, il faut que vous sachiez que l'Europe, définitivement, elle empêche cela. Plus jamais on se fera la guerre. Victor Hugo déjà disait, une guerre entre Européens, c'est une guerre civile. Voilà, c'est fini la guerre entre nous.
Alors, mon avenir, c'est l'Europe ?
Oui, ton avenir, c'est l'Europe. Mais on te l'a si peu dit, et on s'est tellement habitué. On voit pas à quel point l'Europe est une invention incroyable.
Voilà, ce que vous venez d'entendre, a été produit sur une idée de la section culturelle du PS, du Parti Socialiste. Et c'est un CD que vous pouvez vous procurer, je pense que vous allez vous précipiter, qui s'intitule « Unis dans la diversité, la Constitution européenne racontée par un certain nombre d'artistes comme Josiane Balasko, Olivier Duhamel, qui n'est pas vraiment un artiste, Jean-Claude Dreyfus, Didier Flamand, Daniel Mesguich, Aurélien Recoin, etc. sur une musique que vous avez sans doute appréciée d'un certain Jean-Philippe Rieux, musique de et par Jean-Philippe Rieux, donc Unis dans la diversité, avec des remerciements à Monique Lang et à d'autres qui ont inspiré ce petit bijou de commentaires et de soutien au oui à la Constitution. On est avec Serge Halimi et Pierre Rimbert.
À vrai dire, cette pédagogie, elle est prise en charge à la fois par les journalistes et puis par un certain nombre d'experts. par les journalistes, leurs arguments paraissent tirés de contes pour enfants. Vous avez la chèvre de Monsieur Seguin et le grand méchant loup. C'est voter non, c'est voter Le Pen. Enfin, je n'y reviens pas parce qu'on l'a entendu 100 fois.
Pourquoi on ne dit pas que l'éventuelle victoire du non serait tout d'abord une victoire du Front National, qui est le principal parti du côté du non?
Laurent Ruquier.
Mais c'est Le Pen, les propos de Le Pen, merde, à chaque présidentielle, c'est de dire ça, c'est de dire...
Mais vous êtes...
Mais c'est la vérité.
Question directe, Stéphane Paoli.
Invité de question directe, Jean-Marie Le Pen, président du Front National, bonjour. Le non, la victoire du non serait-elle considérée comme véritablement une victoire du Front National le 29 mai prochain? Dans la mesure où beaucoup considèrent que le poids du Front National est plus important aujourd'hui que celui du PS en faveur du non.
Ce serait abusif de le dire. Il est évident que le Front National ne peut pas revendiquer à lui seul la victoire du non.
Voter non, ce serait aussi voter pour la Wehrmacht. En 1992, à la veille du référendum de Maastricht, Alain Gérard Slama, du Figaro, nous expliquait, je le cite, qu'en votant non, nous donnerions un magnifique cadeau, sinon à Hitler, du moins à Bismarck. Fin de citation.
TF1, Laurence Ferrari.
Et nous allons maintenant parler d'Europe avec Laurent Fabius. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Nous sommes le 8 mai 2005. Toute l'Europe commémore la fin de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, la paix revenue en Europe. Et vous venez nous dire donc ce soir qu'il faut dire non à la Constitution européenne.
Et puisque ce genre d'imbécilité n'a aucune limite, citons aussi le propos de Jean-Marie Cavada, qui est bien connu ici, puisque c'est l'ancien président de Radio France, devenu depuis le lieutenant de François Bayrou, qui déclarait, et c'est une citation originale, « Ceux qui font la fine bouche devant la Constitution européenne devraient avoir en mémoire les photos d'Auschwitz. »
Fin de citation. C'est vrai que dit comme ça, c'est convaincant.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu le rapport entre la Constitution européenne et les photos d'Auschwitz, mais admettez que ce n'est pas évident.
Le grand rendez-vous, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach aujourd'hui, Simone Veil, ancienne présidente du Parlement européen.
Bonsoir Madame Simone Veil.
Bonsoir.
C'est un plaisir de vous recevoir. Votre parole est ce soir très attendue. Le grand rendez-vous d'Europe 1 est heureux de vous accueillir. Depuis quelques heures, vous êtes en effet en congé du Conseil constitutionnel et pour un mois. Et est-ce que c'est Simone Veil, UMP, qui entre en campagne ou Simone Veil, virgule Simone Veil?
C'est Simone Veil. C'est Simone Veil qui a siégé pendant 13 ans au Parlement européen, qui en a été la présidente pendant 2 ans et demi, lorsqu'il a été élu au suffrage universel. Mais je dirais que c'est surtout Simone Veil à la sortie des camps. Parce que mes convictions européennes remontent à cette époque.
Merci beaucoup Simone Veil, je vous interromps malheureusement puisqu'on arrive à la fin de ce journal.
TF1, Thomas Hugues, 2 mai 2005.
À bientôt et merci de faire cette campagne, même si certains vous engagent à démissionner du Conseil constitutionnel.
Cela dit, la pédagogie du grand méchant loup n'est qu'une variante de la pédagogie de la catastrophe. De la chef de Monsieur Seguin, on va passer au comte de Grimm. Si vous n'êtes pas sage, si vous ne votez pas oui, il va se mettre à pleuvoir des grenouilles. Alors, pour Alain Genestard, responsable de Paris Match, s'opposer au traité, c'est, je cite, « stopper une dynamique au pire moment, sans doute, de l'histoire du monde ». Il n'y a pas de nuance. Et vous allez distinguer une sorte de gradation dans ce non-catastrophe qui, aujourd'hui, fracasse le mur du grotesque. Charles Villeneuve, journaliste à TF1, responsable de l'émission « Le droit de savoir », je cite, « tous ceux qui sont contre le traité sont en réalité pour la ruine de ce pays. »
C'était au moment de Maastricht, non?
Non, c'était dans TV Magazine, là, le 17 avril dernier. Alors, la ruine de ce pays, mais aussi la dévastation. Pour Dominique Strauss-Kahn, un nom aurait, je cite, un souffle de bombe atomique. La dévastation, la bombe atomique, mais aussi le déluge. François Bayrou nous prévient, je le cite, « je vous le dis de toutes mes fibres, si le nom l'emporte, il pleuvra plus de 40 jours ». Fin de citation.
Je coupe deux secondes, encore quelques autres précisions peut-être que vous avez omises de relever dans votre liste de tous les périls qui pourraient nous arriver si le nom passait, par exemple en matière de santé.
France Info,
profession, chercheur,
28 avril 2005.
Mario Dilmonchicourt.
La première journée européenne d'immunologie va réunir demain partout en Europe des centaines de chercheurs décidés à faire connaître l'importance de leurs travaux. Brigitte Autran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'immunologie à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes spécialisée dans la recherche d'un vaccin contre le sida.
Nous menons des recherches sur des vaccins contre le sida qui s'adressent aux personnes déjà infectées. Le but est de renforcer les défenses de l'organisme contre ce virus afin de ralentir la progression.
Où en êtes-vous dans vos recherches ?
Nous avons, avec l'Agence nationale de recherche sur le sida, obtenu quelques premiers résultats très encourageants que nous devons confirmer. Et nous coordonnons actuellement plusieurs essais européens afin de confirmer ces résultats et d'obtenir des succès encore plus importants.
Donc c'est une recherche européenne ?
C'est une recherche européenne.
Si jamais le nom l'emportait ?
Ce serait une catastrophe pour nous tous.
C'était Brigitte Autran, membre de la Société française d'immunologie.
Oui, alors là, on a compris, hein, le sida vote non et le vaccin vote oui.
Et je rappelle que c'est une chronique qui n'a strictement rien de politique, c'est une chronique santé.
Le bâton, santé politique.
La carotte. Alors, vous avez le bâton, hein, le non-catastrophe, mais aussi la carotte. Et cette fois-ci, c'est Alice au pays des merveilles, après les contes de Grimm et le grand méchant loup. Pour Jacques Julliard, je cite, « L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la liberté. L'Europe, c'est la prospérité. » C'est une citation, hein, je n'ai rien enlevé. Vous avez la variante poétique de Jean Daniel, qui nous explique que, je le cite, « La merveilleuse légende de l'Europe » constitue le seul éclair apparu dans les ténèbres de l'histoire depuis qu'elle existe. Et désormais, vous êtes convaincu, rassuré, instruit, et vous voilà prêt à proclamer avec Alain Genestard de Paris Match « La pédagogie en politique est plus difficile que la démagogie. Le oui à la discrétion d'une violette cachée dans l'herbe folle de tous les mécontentements et de tous les tapages. »
Ils m'ont fâché avec Marie-Odile, mon chicour, elle l'a pas fait exprès. Et moi j'étais pas là, moi j'étais en reportage. C'est les responsables, Marie-Odile, c'est Guy Venti, c'est Serge Halimi et c'est Pierre Rimbert, avec qui on continue quand même cette émission. Des montages, commentaires sur les commentateurs, sur les experts et les spécialistes, défenseurs du oui, quand même, pour la plupart.
Claude Imbert. Bonjour Claude.
Bonjour.
Le temps de quelques échanges, bien sûr, avec Jacques Julliard. Bonjour.
Bonjour.
Jacques. Alors, Claude...
LCI, 15 avril 2005.
Le référendum est tombé sur une France, à mes yeux, somnambule. La vérité, c'est que, bien sûr, l'Europe est libérale, enfin parce que l'économie de marché acceptée fait que tout le monde est libéral. On vit dans un régime libéral. Alors le problème, c'est de savoir quelle est la marge, d'ingrédients sociaux qui donnent un élément protectif, régulateur, pour empêcher ce qu'on appelle la jungle libérale. Alors, les Français s'imaginent, j'entendais Fabius ce matin, me paraissait comique, avec l'idée que le non allait permettre aux Français d'installer une immense, camisole de protectionnisme à la manière française, alors que les Français en Europe sont de très loin ceux qui sont déjà, et depuis 20 à 30 ans, dans un système que les autres considèrent comme pervers et dont ils sortent.
On entre dans le psychodrame, selon vous, là.
Moi, je le pense aussi.
Et naturellement, quelle pédagogie est la leur? Leurs rémunérations n'ont pas été gelées, le bureau de poste de leur village n'a pas été fermé, leur emploi n'a pas été délocalisé. Voilà les conditions de leur existence. Alors, naturellement, comme ils disposent des moyens d'information, avec le nom, on a la fin de l'axe franco-allemand, la France isolée, le sida, la circulaire Bolkestein qui s'imposera. Avec le oui, en revanche, et là je n'invente rien, on a eu successivement les comptes rémunérés, un pape européen, moins de victimes, on aurait eu moins de victimes du tsunami, Paris capitale olympique, le Parlement européen reste à Strasbourg, Airbus vol et l'égalité des sexes. Tout ça, Tout ça, c'est en quelque sorte le paquet cadeau. Bon, la bonne nouvelle, c'est que naturellement, les arguments commencent à être tellement connus, tellement répétés. Les gens qui se souviennent de Maastricht ont déjà retrouvé certains de ces arguments. Les gens qui se souviennent de la pédagogie qu'il fallait faire au moment des mouvements sociaux connaissent aussi ces arguments. Et il y a une chose qui me frappe maintenant, c'est le recours presque systématique à ceux qu'on appelle les experts. Vous savez, il y a toujours des experts. L'un des moyens que les médias ont de s'engager sans en avoir l'air est de faire appel à des experts entre guillemets, devrait-on dire, qui diront exactement ce qu'on attend d'eux dans le format qui conviendra, avec les mots doctes qui s'imposent, et qui présenteront leur vérité comme celle de la science, de l'impartialité compétente. Et ces faux experts impartiaux, ils existent dans tous les domaines. Sciences Po en est une véritable pépinière. Leur rôle est toujours de légitimer, de préparer les choix du pouvoir. Vous avez Alain Boer pour les questions de sécurité, vous avez Michel Candessus pour les questions de croissance, vous avez d'une certaine manière Jean-Noël Jeannet pour celle des médias. Là, dans le cas d'espèce, les experts de la Constitution sont plutôt des sondeurs, des juristes, des politologues. Mais des sondeurs, des juristes, des politologues particulièrement orientés. Par exemple, l'expert sondeur Pierre Giacometti, qui est patron d'Ipsos, s'est rendu récemment devant des militants de l'UMP pour leur expliquer comment convaincre l'électorat socialiste de voter oui. Il les a encouragés à convaincre les électeurs socialistes, majoritairement tentés par le non, à voter oui en leur expliquant que voter oui, ça ne voulait pas dire soutenir le pouvoir actuel, et en leur disant que c'était ça l'argument principal qu'ils devaient défendre. Donc on le présente comme un sondeur, mais c'est un sondeur partisan, puisqu'il s'est déclaré déjà favorable au oui. Vous avez la même chose avec, dernier exemple, le plus caricatural, si l'on peut dire, lorsque Jacques Chirac intervient devant deux journalistes qui ne se sont pas manifestés par leur pugnacité extrême, c'est le moins qu'on puisse dire, en particulier Arlette Chabot, Europe 1 demande à un expert en communication de commenter leurs prestations. Cet expert est Maurice Lévy, président du directoire de Publicis Groupe, actionnaire à 49% des régies publicitaires du Monde et de Libération, qui a déjà été bénéficiaire des campagnes de communication du gouvernement au moment du lancement de l'euro, et qui après avait fait aussi les campagnes de communication du gouvernement sur le plan de réforme de la sécurité sociale, et qui est un partisan déclaré de la Constitution, puisqu'il l'a lui-même annoncé à Radio Classique, je cite, « Une convention s'est tenue, un texte de constitution a été élaboré, il n'est pas parfait mais c'est déjà un mieux par rapport à la situation actuelle, et je pense qu'il faut d'abord et avant tout se précipiter pour le ratifier. » On interroge l'expert sur la prestation du président de la République, énorme surprise, il trouve que le président de la République a été très bon, et qu'il a en quelque sorte conclu l'affaire, et qu'il fallait voter oui. Donc je pense que le recours à peu près systématique à des experts qui sont présentés comme neutres alors qu'ils ont en réalité pris parti, qu'ils sont issus d'institutions comme Sciences Po ou proches de la Commission européenne, qui ne vivent que pour que cet espace européen existe tel qu'il existe, c'est-à-dire de plus en plus libéral, avec une concurrence libre et non faussée, sauf quand il s'agit des experts, bon, c'est une autre manière de biaiser le débat.
C'était une fois dans le pays, parmi les champs et les prairies, un beau troupeau de moutons blancs dans les prés paissait insouciant. Mais
au milieu du troupeau qui bêle, un mouton noir se rebelle.
Le mouton noir a bien compris que les loups faisaient les gentils.
Avec l'espoir quand vient la nuit de brader par bout la bergerie.
Pour une concurrence non faussée.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir a bien compris, l'homme est un loup pour le mouton.
Et quand soudain le mouton grogne,
les loups s'affolent pour un non.
Le mouton noir a décidé d'ignorer le clairon qui sonne.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir n'est pas gentil, il en a marre de dire amen.
Ah, ah, alléluia.
Au chien de garde sur toutes les chaînes,
le mouton noir ne dit pas oui. Le mouton noir enfin voit rouge, se dit que tout seul rien ne bouge. Qu'il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot.
faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot. Il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot.
Serge Limi et Pierre Rimbert, je rappelle que vous êtes tous les deux nos experts aujourd'hui pour critiquer la critique des médias et surtout pour revenir sur comment nos collègues et confrères journalistes évoquent ces enjeux du débat européen. Vous parliez des experts à l'instant, il y en a un que vous n'avez pas cité que je vous propose d'écouter tout de suite.
France Info, Économie Matin.
Bonjour Henri Lorette.
Bonjour Olivier Lagarde.
Alors les Européens se sont mis d'accord, le pacte de stabilité va donc être réformé. Enfin une bonne nouvelle pour les partisans du oui, Henri, alors que le non au référendum progresse.
Bien de tout temps, on le sait bien, l'exploitation des peurs est plus payante que la glorification des envies. Que le non au référendum actuellement progresse dans les sondages, faut-il s'en étonner? L'Europe sert volontiers de refouloir, les Européens parlent de ce qui les divise plutôt que de ce qui les rassemble. Dumping social, délocalisation, chômage, contrainte, quand ce n'est pas bisbille ou sanctions, Turquie, tendons l'oreille, et soyons clairs, il y a bien là des menaces, sinon des risques. Mais quelle entreprise résisterait à un tel marketing de café du commerce, ou à une communication politique parfois digne de gribouille? Et c'est aussi ce qui explique, par exemple, qu'un certain Fritz Bolkenstein, néerlandais de son état, puisse devenir le mauvais génie des europhiles.
Attendez Henri, hein. Je croyais que la directive Bolkestein était morte, enterrée, qu'il n'y avait plus rien à craindre.
Oui, sauf que cette directive sert toujours aux eurosceptiques. Pour les tenants du oui, bien sûr, elle reste maudite. Il faut maintenant remonter le handicap, alors qu'il est clair que la directive en elle-même est inacceptable et qu'ailleurs, elle est refusée par les politiques. Ceci dit, sur le fond, oublions la directive Bolkestein, mais il faut continuer à parler du marché et des services et de son ouverture, car l'ouverture peut vraiment profiter aux consommateurs européens.
Oui, j'ai entendu ce bien entendu, la circulaire est inacceptable. Alors je ne sais pas s'il est possible de faire des recherches et de demander à ce chroniqueur combien de chroniques il a produit pour dénoncer cette circulaire inacceptable. Ou bien peut-être qu'il découvre qu'elle est inacceptable quand de fait elle est rejetée par tout le monde. Parce que là, sur la circulaire Bolkestein, vous avez cet argument qui est assez amusant, qui consiste à dire, si on avait une constitution, cette circulaire ne passerait pas. Seul problème, ceux qui ont accepté cette circulaire, et notamment les commissaires français Pascal Lamy et Michel Barnier, sont de chauds partisans de cette constitution. Donc il doit y avoir un peu d'irrationalité chez eux aussi, et probablement un travail de pédagogie est nécessaire dans leur cas également.
Ce qui est remarquable aussi, c'est que le discours économique qui consiste à dire, bien entendu, on devra procéder à la libéralisation des services, ce discours économique...
C'est-à-dire exactement ce que prévoit la directive Bolkestein.
Oui, mais enfin, j'imagine dans la bouche du commentateur sans l'option du pays d'origine, ces préjugés économiques et les préjugés sociaux qui l'accompagnent sont rigoureusement identiques à ceux que véhicule la presse en temps ordinaire. Là, on aperçoit en quelque sorte la partie émergée d'un iceberg, la partie immergée étant celle d'un ronronnement libéral permanent que je voudrais illustrer un instant avec les éditoriaux du Monde. Le Monde qui, depuis maintenant quelques années, se proclame le navire amiral de la presse française et qui, dans cette position, est bien placé pour incarner l'idéologie économique du journalisme dominant, publie très régulièrement des éditoriaux pour commenter les grandes décisions économiques. Alors, faisons-en un petit peu le résumé. L'éditorial du Monde, je le rappelle, engage l'ensemble du journal, hein, selon la charte éditoriale du quotidien. Cet éditorial a salué successivement le courage d'Édouard Balladur, édition du 24-25 septembre 95, puis le plan Juppé, édition du 17 novembre 95, puis les licenciements à Renaud Vilvoorde, édition du 1er juillet 97, puis la réforme Fillon sur les retraites, édition du 20-21 avril 2003, puis le démantèlement de la sécurité sociale allemande par le gouvernement Schröder, en ajoutant même dans son édition du 23 juillet 2003 que toute l'Europe doit s'en réjouir, puis les réformes Hartz, qui, toujours en Allemagne, cassaient l'indemnisation chômage, et enfin le rapport Kanzu, qui synthétisait un peu l'esprit de toutes ces mesures dans l'édition du 20 octobre dernier. Et à présent, l'éditorialiste du Monde nous déclare, je le cite, que chaque conflit social, chaque accès de grogne d'une catégorie professionnelle porte en germe le refus, voire la haine de l'Europe. Fin de citation. Et là, c'est formidable parce que vous avez ce ronronnement permanent, ce ronronnement libéral des médias français, des médias dominants en tout cas. Et puis, lorsque une option tactique d'un journaliste va à l'encontre de ses préjugés économiques, on vient de l'entendre avec la circulaire Bolkestein, ils nous disent évidemment la circulaire Bolkestein est inacceptable. Ce qui me frappe également, c'est que il n'y a jamais d'amendement de ces journalistes-là. Ils n'expliquent jamais qu'ils se sont trompés. Et la difficulté, c'est que les gens qui procèdent à la critique des médias se contentent trop souvent de la critique des excès des médias. On ne critique pas l'ordinaire. On ne critique pas ce ronronnement permanent. Et du coup, à chaque fois, on dénonce les excès et les compteurs sont en quelque sorte remis à zéro une fois que cette dénonciation est passée. Et puis tout recommence.
Mais faute avouée, demi-pardonnée.
Faute avouée, faute demi-pardonnée. Et du coup, les choses continuent. Eh bien, plutôt que de considérer ces phénomènes, la multiplication des fausses coupes, ce ronronnement libéral permanent, le traitement biaisé, d'une part en termes de temps d'antenne, de temps de parole, mais aussi en termes du choix des invités, du choix des sujets, etc., etc., plutôt que de considérer tout ça comme un problème de structure, on s'obstine à les interpréter comme des emballements, ponctuels. Et du coup, la parenthèse de la critique se referme aussi vite qu'elle s'était ouverte, offrant aux dirigeants de la presse une sorte d'amnistie permanente. C'est-à-dire que notre amnésie, lorsqu'on cesse de critiquer les médias, devient une amnistie pour les contremaîtres de la presse.
France 3, France Europe Express, Serge Julie.
Vous ne m'attendez pas très bien, parce que, si je puis me permettre,
c'est votre avis.
Qualification.
Oui.
Avril-mai 2005.
Il se passe quoi? On est le lendemain, le problème des compromis, le problème de l'Europe, c'est qu'on n'est pas tout seul. J'ai envie de vous demander que faire pour sauver la Constitution.
Que faire pour sauver la Constitution, dit Serge Julie.
Oui, lorsqu'il s'agit des adversaires du traité, je crois que les journalistes, en un sens, font leur travail. Ils leur portent la contradiction lorsqu'ils énoncent des éléments d'information qui paraissent inexacts aux journalistes ou sur lesquels les journalistes souhaitent apporter des précisions, ils interviennent. Évidemment, le problème, c'est que cette intervention, on la remarque beaucoup moins, que les questions sont infiniment plus prévenantes lorsque les journalistes s'adressent à des partisans du traité.
Serge Julie.
Deuxième question, François Béraud. Comment vous pensez qu'il faut dépolluer le référendum de tous ces aspects collatéraux?
Oui, on sent que c'est une de ses préoccupations, mais j'avais remarqué une question identique que je relevais dans l'article du Monde Diplomatique, qui était la question de Jean-Pierre Elkabbach à François Fillon, lorsqu'il lui demandait, sur le fond, comment convaincre les Français que voter oui, c'est mettre du bleu, blanc, rouge dans le bleu étoilé de l'Europe de 2010?
Comment on imagine l'embarras de François Fillon devant une question aussi déstabilisante.
Et on sentait qu'il...
Il n'est pas sur le grill, vous voulez dire?
Voilà, qu'il l'implorait de lui procurer des arguments qu'il pourrait utiliser les jours suivants avec d'autres invités. Alors, quand on entend ces questions, moi j'ai envie de vous donner l'avis d'un expert, qui est en l'occurrence Christine O'Krent, qui en octobre 2004 a dénoncé, je cite, « un phénomène convergent et préoccupant, l'ancrage des médias qui ne s'embarrassent pas d'être sinon objectifs, du moins équilibrés, et qui sont ouvertement partisans ». Vous aurez compris qu'elle parlait des médias américains de George Bush.
Oui, c'est ce genre de questions montrent aussi que la partialité de la presse, ça s'exprime par tout autre chose que le seul temps de parole, que la seule dissymétrie accordée dans le temps de parole. C'est aussi le climat qui est créé, le parti pris des journalistes, les sujets qu'ils choisissent d'aborder, leurs questions, mais aussi les titres d'articles de journaux, les images, les dessins, le vocabulaire. Les articles vont parler presque systématiquement d'échec du référendum en cas de victoire du non. Les sondages sont systématiquement qualifiés de mauvais sondages lorsqu'ils donnent le non gagnant. Et donc c'est tout un climat qui est créé à la fois sur les plateaux et de télévision ou de radio et dans les rédactions, pour présenter le non comme une calamité et le oui comme une espèce de bienfait universel.
Blanc, nul ou bien même absent. En boudant, les Français prendraient le risque d'enrayer la belle mécanique européenne. Surprenante attitude qui ne manque pas d'explication. Ombrageux Français qui n'aiment pas qu'on les pousse. Finalement, il rappelle un peu cet écolier de Prévert qui dit non avec la tête, mais oui avec le cœur.
Et puis ce n'est encore qu'un sondage, bien sûr.
Alors, mon avenir, c'est l'Europe ?
Oui, ton avenir, c'est l'Europe. Mais on te l'a si peu dit, et on s'est tellement habitué. On voit pas à quel point l'Europe est une invention incroyable.
Voilà, ces petits dialogues entre cet enfant et cet homme un peu étrange. Eh bien, c'est une idée de la section culturelle du PS, du Parti Socialiste. Et vous pouvez entendre, retrouver ces dialogues et beaucoup d'autres choses dans ce CD qui sort la Constitution européenne, unie dans la diversité, donc racontée par un certain nombre de comédiens et d'artistes à l'initiative du Parti Socialiste. Alors, Rimbert et Halimi citent tout ce qui va nous arriver si jamais, si par malheur, le nom passait. Il y a évidemment la phrase fameuse désormais de notre confrère Bernard Guetta, qui le 18 mars dernier disait « C'est une terrible erreur que la France est à la veille de commettre ». Jacques Delors qui nous a dit « Une victoire du non provoquerait un cataclysme politique en France ». Alain Genestard, l'évidence, je le cite, « L'évidence et le bon sens appellent à voter oui, mais la pédagogie est en politique plus difficile que la démagogie. Pour l'heure, seul le non fait du tapage, le oui à la discrétion d'une violette cachée dans les herbes folles de tous les mécontentements et de tous les tapages. » On peut continuer comme ça indéfiniment. Jérôme Jaffré, directeur d'institut de sondage au moment où le oui triomphait, je cite, « Les Français souhaitent répondre à la question posée. Est-ce que la France veut participer au premier rang à la construction européenne ? C'est l'Europe qu'on assassine si l'on vote non. » Il l'a dit sur France Culture le 5 mars dernier, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà ce que Serge Halimi et Pierre Rimbert analysent sous vos yeux.
La France doit dire oui à l'Europe parce que l'Europe et la France le méritent.
Peut-être en conclusion, Pierre Rimbert, Serge Halimi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Éteindre sa télé et consulter avec son petit surligneur, sa constitution européenne, chacun dans son coin pour être sûr de ne pas être influencé, ou bien être avec son bloc-notes et faire ce travail laborieux et, à vrai dire, assez scolaire, de noter, relever, être à l'écoute de ce qui nous est dit pour voir qui nous parle, d'où on nous parle et comment on nous parle.
Oui, bah la première chose, c'est que la critique des médias est quelque chose d'assez rare en France. Il y a une critique des excès des médias, mais une critique de l'ordinaire médiatique, c'est assez rare. S'informer sur l'information, s'informer sur les médias, parce qu'après tout, les journalistes prétendent nous informer, mais on est très peu informés sur eux, sur les journalistes. Mais je pense que tout ça n'est pas suffisant. Une fois qu'on est informé sur les médias, l'objectif est aussi de les transformer. Et en 92, au moment du référendum de Maastricht, il y a eu des protestations sur le traitement médiatique. Et puis, on a oublié. En 95, il y a eu des protestations sur le traitement médiatique, et puis on a oublié. En 2003, lors de la grève des retraites, il y a eu des protestations, et toujours ce même oubli. Et aujourd'hui, il y a des protestations, des articles de presse dans Les Échos, dans Marianne, dans Politis, dans L'Humanité. Et puis, quelle que soit l'issue du scrutin du 29 mai, qu'est-ce qu'il y aura demain ?
Serge Halimi ?
Oui, que faire ? Je pense qu'il y a, peut-être une réflexion qui peut nourrir notre optimisme. Et qui est d'abord rappeler que l'information n'est pas le monopole du journalisme, que les gens s'informent de mille manières, que le journalisme est une des manières qui les informe, mais qu'il y en a d'autres qui comptent parfois davantage, comme par exemple l'examen de leurs conditions sociales. Les pouvoirs ont presque toujours contrôlé l'information. Le pouvoir absolu, l'idéologie dominante, n'ont pas empêché la transformation historique. Plus récemment, on l'a observé dans le cadre du mouvement social de novembre-décembre 95, l'opposition aux réformes libérales a été particulièrement forte dans la société, au sein du mouvement populaire, en dépit du traitement unilatéral des mouvements sociaux. Donc il y a toujours, en quelque sorte, cette possibilité d'être vacciné contre la propagande médiatique, qui est un peu une constante historique, à la lumière de son expérience sociale. On ne peut pas vous dire l'Europe c'est formidable, le libéralisme c'est formidable, les délocalisations c'est merveilleux, si vous êtes victime des délocalisations ou du libéralisme. Au bout d'un moment, et même assez vite, vous allez avoir tendance à croire davantage votre expérience sociale que les discours qui vous sont surinés par une élite privilégiée dont vous avez assez vite identifié d'où elle vient et ce qu'elle veut. Et je crois que ça, c'est aussi un facteur qu'il faut avoir à l'esprit, parce que c'est ce qui explique presque régulièrement que la propagande n'atteigne pas son objectif. Parce qu'il y a un écart très réel et très visible entre ce qu'elle dit et ce que nos expériences, nos existences sociales nous permettent de constater.
Si je comprends bien, c'est que nos collègues journalistes sont peut-être convaincus, mais ils ne sont pas nécessairement convaincants.
Oui, ils sont convaincus parce que leur expérience sociale conforte les analyses qu'ils développent, mais comme les analyses qu'ils développent contredisent l'expérience sociale d'une bonne partie de leurs auditeurs et de leurs lecteurs, eh bien, disons que leurs commentaires, leurs prescriptions n'ont pas l'impact qu'ils aimeraient qu'ils aient.
TF1.
Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont envie de voter non ?
Écoutez, on peut pas convaincre des gens convaincus. Alors moi, si je vote oui, c'est, je vais pas essayer de convaincre quelqu'un de voter oui s'il veut voter non. Comme moi, on pourra pas me convaincre de voter non si j'ai envie de voter oui.
Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Non, 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 non.
Oui, 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 oui. Voilà, merci à Pierre Rimbert et Serge Halimi. C'était un entretien conduit par Yves Anctil. Je rappelle le numéro du mois de mai du Monde diplomatique avec un long papier de Serge Halimi sur ces questions. Également, le site du journal PLPL pour lire Palu, c'est www.plpl.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Céline Le Bonhomme et Pascal Baldassari. L'équipe de là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, alors demain, spécial répondeur oui, oui, oui ou non, non, non. Mais amis oui, ouistes, allez-y, déchaînez-vous parce qu'on est quand même assez faible sur les oui. On n'a pas pu faire de répondeur aujourd'hui. Nous n'avions aucun oui. Alors allez-y, vous avez toute la soirée, toute la matinée. Demain, pas trop tard quand même dans la matinée, le temps qu'on trie et qu'on organise tout ça pour l'émission de demain. Je rappelle le mail de là-bas si j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Et puis je rappelle aussi quoi faire en attendant la fin du monde qui interviendra le 29 mai au soir après, si dans le cas malheureux où vous votiez le non, et bien ce sera, on le sait, la fin du monde. D'ici là, pour se détendre un petit peu, le 24 mai, mardi 24 mai, à partir de 20h au théâtre de Jazet, ce sera le procès de NS, à savoir Nicolas Sarkozy, avec une pléiade de gens tout à fait talentueux et humoristiques comme Cabu, Mordilla, moi-même et tout un tas d'autres zozos et d'autres oiseaux. C'est au de Jazet, je vous en parlerai. Donc, mardi 24 à...
Oui, 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 oui,
20h.
Oui, oui,
oui. Alors on va finir cette émission en attendant notre Frédéric Bonneau et son charivari et un petit peu de réclame avec quand même une petite cerise sur le gâteau. Vous l'aviez, c'est une auditrice qui nous l'avait adressé, mais on peut pas finir cette émission sans cette délicieuse cerise sur ce gâteau en forme de triple crème.
Pierre Imbert, Serge Halimi, vous avez parlé du risque pour la santé, le risque pour le social, le risque pour la défense européenne, pour le statut des femmes.
Pour les Jeux Olympiques, pour Strasbourg, capitale du Parlement européen.
Un risque aussi culturel. Je rappelle qu'il y a quelques jours de ça encore, tout un groupe d'artistes européens ont pris position officiellement pour le oui. C'est le risque pour la culture. Et je vous propose d'écouter Alexandre Adler sur France Culture.
Eh bien, François Pinault a décidé donc de se déplacer à Venise. Ce n'est pas une délocalisation loin de l'Europe, c'est en Europe. François Pinault lui-même est un entrepreneur moderne. Il n'a rien d'un conservateur étroit et vétilleux, et encore moins d'un ultra-libéral. Son choix signifie simplement qu'il y a une France qui aujourd'hui est arrivée au bord de l'explosion. une France sclérotique, une France prétentieuse, une France tournée vers elle-même, une France qui se croit irremplaçable et qui se trompe. Cette France, excusez-moi de cette petit élément de propagande, c'est bien sûr la France du non. Avant de remporter le référendum, à Dieu ne plaise, les partisans du non peuvent se féliciter d'une belle victoire. Ils ont fait partir les collections les plus intéressantes d'art contemporain qui existaient sur notre sol vers le Palais Grassi à Venise. Après tout, aujourd'hui, grâce à Schengen, c'est encore un peu la France, mais pas tout à fait.
C'était la chronique d'Alexandre Haber. On a perdu aussi...